Il est 21h05 et vous écoutez Au Pays des Rêves.
La vision du monde de la nuit, la vision du monde de la musique électronique est tellement négative depuis tellement d'années.
Étudier la musique techno, mais c'est pas simple.
Au Pays des Rêves, un mardi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour discuter avec la collective Au-delà du club, avec qui on va parler de la puissance politique de la fête et des musiques électroniques, et surtout on va discuter du prochain numéro de leur projet de fanzine qui paraîtra dans quelques jours, Conscience de fête, réinvestir les espaces festifs comme zone de lutte. On va aussi bien sûr détendre nos oreilles avec du bon son, et en fin d'émission, Agathe viendra nous parler du documentaire Sisters with Transistors, un documentaire qui retrace l'histoire des pionnières de la musique électro, une histoire trop souvent oubliée. Et on est donc parti pour une heure d'émission. Au-delà du club, c'est un laboratoire de recherche artistique autour des futurs de la nuit. Depuis 2021, vous concevez des projets éditoriaux et artistiques pour ouvrir les perspectives sur les enjeux des espaces festifs, des scènes électroniques et pour renouveler les récits autour de la fête. Vos terrains d'expérimentation privilégiés, ce sont les espaces festifs, donc les clubs, les festivals, les lieux alternatifs, ainsi que tout l'univers des musiques actuelles et électroniques. On va parler aujourd'hui de votre projet de série de publications Flash, paroles et images pour réinventer les nuits. Flash, c'est une série de fanzines axée sur la nuit, les minorités politiques, l'inclusion, la sécurité, les soirées électro, les clubs, etc. Et on va plus particulièrement parler de votre prochain numéro de Flash, le numéro 4, qui questionne la portée et la puissance politique de l'écosystème festif. Ce dernier numéro, c'est le résultat d'un travail commun des membres du collectif Sarah, Laure, Ewan et Célia, aux côtés des directrices artistiques Marine Barbeau et Lucie Damaz. Ce soir, on est justement avec Laure et Sarah. Laure, tu es artiste, directrice artistique et co-directrice de la revue Flash. Et Sarah, tu es DJ, productrice, chanteuse et aussi co-directrice de la revue Flash. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur la collective Au-delà du club ? Comment est-ce qu'elle est née ? Qui en fait partie ? Quelles sont vos missions, etc.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour cette introduction. Du coup, Au-delà du club, c'est une association qui existe depuis 2021. Donc, tu l'as très bien décrit. On se nomme comme un laboratoire de recherche artistique pour des nuits plus inclusives. C'est une petite équipe. On est 4 membres. On est toutes artistes, DJ ou professionnelles, en tout cas des scènes et des musiques électroniques. Donc Laure qui est avec moi ce soir, Célia Texier et Ewan Guttals, et du coup moi-même. Je ne me suis pas présentée, moi c'est Sarah Gamrani. voilà, nous c'est un peu le noyau, le cœur des réflexions qu'on mène avec la collective, mais il y a aussi des artistes et amis proches qui participent de façon plus ponctuelle en fonction des projets et à différentes étapes de la revue. La revue, comme tu le disais, c'est un projet qui en fait a découlé de la jeunesse d'Au-delà du club, qui était un projet de recherche sur comment on allait retourner à la nuit et aux espaces festifs après la pandémie, puisque du coup c'était une période où on a été privé de ces formes de sociabiliser, de relationner et d'être ensemble. Et donc cette recherche, pour moi, c'était un mémoire pendant mes études, en fait, c'était mon mémoire de master. Et ça a un peu commencé comme ça, où j'ai travaillé dans des ateliers d'écriture avec 8 artistes sexisés des scènes électroniques, c'était des ateliers d'écriture de poésie. Donc la poésie, c'était ma méthode de recherche pour collecter des données sur leurs ressentis, leur expérience, leur subjectivité en tant qu'artiste et en tant que public des espaces festifs. Et tout ça a donné lieu à la publication d'un premier livre. Et en fait, ce Flashies, au final...
Flashies, pardon.
Nous, on dit Flashies, mais il y en a beaucoup qui disent Flash. Voilà. Mais bon, bref, peu importe, comme on veut.
Je dirais Flashies maintenant.
Mais du coup, c'est un peu... Ça a découlé de ça, tout simplement, de cette genèse-là. Des thématiques qui ont émergé avec cette première recherche, avec Laure, du coup, que j'ai rencontrée vraiment tout aux prémices de l'association et de nos activités. On a du coup voulu aller explorer un peu plus en profondeur les thèmes qui étaient ressortis des poèmes et de cette recherche-là. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans les revues. Donc, déjà dans les quatre numéros qui sont déjà sortis.
C'est ça. Donc, moi, merci beaucoup de nous avoir invités. Donc, moi, c'est Laure Togola. Effectivement, j'ai rejoint Sarah en fait à ce moment-là où elle sortait ce premier ouvrage intitulé Au-delà du club, qui était donc le projet initialement de son master, mais qu'elle avait quand même travaillé avec Ewan déjà pour en faire un ouvrage qui est sorti et qui a été auto-édité. Donc à ce moment-là, on s'est rencontrés autour de cette sortie-là et on a beaucoup discuté des enjeux qui nous étaient chers. Et on a réfléchi ensemble comment on pourrait continuer ce travail éditorial, comment on pourrait mettre ensemble tous nos skills, mais aussi toutes nos envies à l'époque, qui étaient d'écrire, d'analyser ces scènes. Donc moi, je travaille dans la musique depuis presque 15 ans maintenant et j'évolue dans les scènes musique actuelle, parfois musique électronique. Évidemment, je fais beaucoup la fête aussi, et c'est un sujet qui m'est important. Et donc on s'est dit qu'une série en fait de qu'on appelait fanzine, maintenant on commence à l'appeler revue, ouais. Parce qu'au départ il y avait une trentaine de pages, là on est à 44 sur la dernière. Donc on se rend compte que en fait c'est un vrai travail d'analyse et c'est un travail de recherche. On a toutes les deux fait des études en sciences sociales et je pense que ça ressort en fait dans cette approche qu'on a du monde nocturne, du monde festif. Et donc notre idée, c'est de se dire on travaille et on évolue dans ce milieu. Il y a énormément de sujets de ce milieu qui nous donnent envie de nous investir, de donner notre parole et aussi de donner la parole à d'autres. Et donc Flashies est vraiment en fait le résultat de discussions et de réflexions, parce qu'il y a des articles plutôt de fond et il y a des interviews avec des personnes qu'on a croisées et qui sont super inspirantes. Notre angle, c'est quand même c'est un projet qui est féministe et intersectionnel. Et notre angle, c'est aussi d'aller mettre en avant des initiatives inspirantes qu'on a vu, souvent qu'on a rencontré ou qu'on a connu en France et en Europe, et qui permettent de donner de l'espoir. En fait, on a tout de suite on s'est rencontré autour de cette idée. C'était qu'on voulait quelque chose d'assez optimiste, bien que parfois sur des sujets compliqués. Et on va aussi, on n'hésite pas à dénoncer aussi ce qui peut se passer dans ces écosystèmes-là, comme je pense au Flashies 3 qui était sur la santé mentale et la question des rapports de travail dans le milieu des musiques électroniques et des musiques actuelles. Et donc c'est un des sujets très sensibles et des sujets compliqués où on a parfois été assez à charge sur certaines pratiques, par exemple. Mais on est très attaché à l'idée d'aller parler avec des personnes qui donnent aussi des solutions et qui vont aussi, elles, avoir bâti des projets innovants pour répondre à ces problèmes. On ne veut pas s'attarder, on ne veut pas se concentrer sur analyser seulement les problèmes. On veut vraiment donner la parole et donner des exemples de solutions aussi pour un monde de la nuit plus émancipateur, transformateur, etc.
C'est génial que un travail de mémoire, de recherche, deviennent Flashies du coup aujourd'hui. Et justement, la singularité de Au-delà du club vient un peu de sa double approche des sujets, donc entre l'artistique et la recherche. Vous explorez vraiment une réflexion de terrain, donc à la fois politique, conceptuelle, artistique. Comment vous faites justement pour mêler ces différentes approches-là et pourquoi c'était important pour vous d'établir cette intersection entre l'art, le militantisme, la recherche?
Je pense que ça nous tient à cœur. Enfin, en fait, je pense que il faut regarder qui compose le collectif, enfin la collective au féminin. Et en fait, on est toutes artistes. On a tout un moyen d'expression qui est lié à l'art, que ça soit la musique, l'écriture, la direction artistique, le graphisme. Enfin, c'est vraiment la peinture. Enfin, c'est vraiment hyper large. Et en fait, de tous nos intérêts communs rassemblés, de toutes nos identités différentes mais à la fois complémentaires, naît en fait ce travail là donc pour nous, ça, c'est important d'avoir un bel objet. La revue est imprimée en risographie, donc c'est vraiment un procédé d'impression soigneux, délicat, et tout ce soin là en fait, il se voit à travers les pages, vraiment c'est hyper important pour nous d'avoir quelque chose d'attrayant, de beau et d'artistique, mais qui défend à la fois dans le fond un propos important et nécessaire. Et du coup, coup, je pense que le fait d'être tout artiste dans ce collectif, ça nous, enfin c'est comme naturel en fait de s'exprimer de cette façon-là et en fait d'avoir l'objet final. Enfin pour nous, il fait sens quoi. On s'est pas vraiment posé la question. Mm-hmm. C'est juste que c'est dans notre pratique quotidienne en fait et dans la façon dont on interagit ensemble et comment on porte ce projet-là. C'est de vraiment faire un objet beau aussi quoi.
Ouais, et je pense qu'il y avait donc ce travail de Sarah qui travaillait beaucoup sur la poésie. Ouais. Donc déjà ça a initié quelque chose de fort, notamment j'allais dire dans la sensibilité en fait. Et c'est là où nous on lit toujours nos recherches, nos réflexions féministes à ce qu'on fait, et il y a vraiment cette idée que le sensible est un terrain d'intérêt politique, c'est-à-dire que, et puis on travaille aussi, comme Sarah l'a dit, toutes dans l'art, enfin en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, donc je travaille plutôt en programmation, direction artistique, et donc c'est aussi un travail de identifier le sensible qui va porter aussi quelque chose en message ou parfois une force émotionnelle, en tout cas essayer de pouvoir, c'est difficile à dire, mais utiliser aussi le sensible pour pouvoir en faire quelque chose de fort et de puissant. Et je pense que c'est là où effectivement le médium artistique et le fait d'être entouré d'artistes aussi, parce qu'il y a aussi tout notre entourage et les gens qu'on a d'abord interviewés, c'est des gens qu'on connaît aussi, avec qui on discute. C'est toujours cette intersection entre le militantisme, la réflexion et une approche artistique et visuelle, photographique,
Merci beaucoup, on va faire une première pause musicale, on va s'écouter For You de Astro Hertz. I can't feel for you or tell you what to do. It's something you got to understand, it's out of my hands. I can't feel for you or tell you what to do. It's something you got to understand, it's out of my hands. I can't feel for you or tell you what to do. It's something you got to understand.
Out of my hands. It's something you've got to understand. It's out of my hands.
Et c'était For You de Astro Hertz. On va continuer de parler de Au-delà du club. Alors, dans le quatrième numéro du coup de Flashies, vous questionnez la portée et la puissance politique de l'écosystème festif. L'idée et l'envie de ce nouveau numéro, elle est née suite notamment du coup à la dissolution de l'Assemblée nationale et aux élections législatives anticipées qui ont suivi. À ce moment-là, on a tous et toutes eu un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler nos milieux culturels et festifs si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Vous souhaitiez donc réinterroger le slogan « Le dance floor est politique » et donc vous questionner les valeurs fondatrices des cultures électroniques, l'histoire de la techno, l'impact de nos fêtes sur les façons de faire société, etc. Vous, comment vous avez vécu ces bouleversements politiques de 2024 au sein de la culture festive? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce numéro à ce moment-là?
Bah, déjà, moi, je me souviens très bien de ce moment. Enfin, en fait, on a fait une espèce de réunion avec avec les filles vers juin pour lancer un peu la marche pour créer le nouveau numéro. Et de base, on devait pas du tout partir sur cette thématique-là. Je crois qu'on devait faire un focus sur la sécurité en milieu festif, okay. Et du coup aborder ça de plein. Enfin, c'est tellement intéressant et très peu traité. Du coup, on est en mode vas-y. Enfin là, il faut qu'on s'y mette. C'est notre sujet. Et en fait, tout ça arrive en juin, donc dissolution de l'Assemblée. Et on est, je crois qu'à ce moment-là, quand on s'est réunis, on était à l'entre-deux-tours, ouais. Avec une espèce d'anxiété qu'on partageait toutes et vraiment d'incertitude de ce qui allait se passer, en fait. Et on s'est dit, mais en fait, là, il se passe quelque chose déjà en nous. C'est parti un peu d'une intuition en se disant, on voyait, par exemple, il y a le Front électronique qui a été créé à ce moment-là, le Front des musiques actuelles aussi. On voyait qu'il y avait une mobilisation vraiment assez inédite pour appeler au barrage contre l'extrême droite. C'était vraiment un sujet dans nos scènes, dans la société, de manière générale, quoi, mais vraiment dans nous, dans nos milieux professionnels, on voyait qu'il y avait cette mobilisation-là et on s'est dit, ok, là, cette mobilisation, elle réagit à une situation d'urgence, forcément, donc c'est normal. Il y a cette anxiété et cette angoisse qui parle et du coup, forcément, on se met en action, on se met en mouvement. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou est-ce que c'est le cas de notre petit microcosme, de notre entre-soi militant? Est-ce que ça va être pérenne? Comment on fait pour que ça dure? Comment on fait pour s'organiser, pas seulement dans l'urgence? Est-ce que, qu'est-ce qui va? Enfin, c'était vraiment plein de questionnements et d'incertitudes qui ont nourri l'envie de parler de ça. On s'est dit, en fait, on fréquente aussi différents types de fêtes, de par nos postures et nos professions. On peut être booké dans des fêtes, dans des clubs vachement, on va dire un peu plus institutionnel. On peut être booké, on peut être dans des free, on peut être faire nos petites fêtes en cercle très restreint où on insuffle toutes nos valeurs et nos façons de voir la fête. Donc en fait, on est dans plein de milieux, en fait, on va dire différents. On s'est dit c'est pas le cas partout, cette mobilisation, elle est pas même si elle a l'air hyper présente, c'est pas le cas partout, donc on va la réinterroger en effet. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on explore ces liens-là, mais qui ont été qui sont partis d'une colère en fait ou d'une angoisse à ce moment-là. Donc voilà.
Et on s'est aussi rendu compte que même au sein du coup de notre petite équipe, on avait des visions, on se posait des questions sur nos rôles à jouer. Par exemple, il y a un des moments dans le Flashies où on parle du rôle des artistes dans ce genre de moment. Et tout ça, c'est des questions qui n'ont pas de réponse simple, mais on s'est dit, même entre nous, on se questionnait. Instagram, à quel moment c'est une plateforme aussi pour exprimer ses idées. On est dans l'année aussi qui suit le 7 octobre 2023 avec un génocide en cours en Palestine et comment les clubs aujourd'hui prennent position là-dessus, comment c'est possible ou pas pour les artistes de choisir, par exemple, la question toujours c'est s'ils vont faire un gig à un endroit qui est questionnable, etc. Et on s'est dit, si nous on se pose ces questions à nous quatre, ça veut dire que c'est des questions qui méritent d'être posées à une plus large audience, avec plus de aussi participants, participantes au sein de la revue. Et aussi, nous, on travaille sur les espaces festifs et le milieu du club. Mais en fait, les questions qu'on pose depuis le début, c'est des questions qui sont transversales, qui sont générales et qui sont politiques. Et donc, on sort aussi de ce... pour ce Flashies, on sort aussi de cette bulle vraiment du club. C'est-à-dire, dans un club, comment se jouent les rapports sociaux? Et on passe à une vision un peu plus ouverte où on se dit, OK, dans la société, en fait, quelle est la place des clubs et des espaces festifs dans la société? Parce qu'au fond, depuis le début, depuis premier Flashies, c'est ce qu'on questionne en fait à travers notre terrain qui est vraiment les fêtes. On veut parler de problèmes plus généraux et donc là c'était l'occasion de se dire en fait voilà, pour nous ce terrain-là il est politique et donc dans ce terrain-là déjà comment les gens s'organisent pour aussi aller observer ce qui pourrait, ce qui pourra se passer dans la société quand il y en aura besoin.
Ouais, et si je peux rajouter aussi, enfin, si tu parlais des clubs, de quel rôle ils ont à jouer, et ça, c'est un peu aussi, on ouvre notre le numéro dessus avec l'édito, et on regarde souvent ce qui se passe aussi en Europe, dans des pays voisins et dans le monde, et là, on ouvre l'édito sur ce qui se passe en, ce qui s'est passé récemment en Géorgie, et donc pour mettre un peu en contexte. À Tbilissi, il y a eu des manifestations qui ont été hyper gravement réprimées et en fait il y a eu une espèce d'expression de solidarité de la part des clubs, des programmateuristes de clubs, des directrices et directeurs de clubs qui ont dit en fait on ferme nos clubs, on ferme les portes des clubs, on ferme nos programmations, on annule tout, on redirige nos forces vers la rue. Et en fait ça a été dans un contexte où il y a eu une élection entre guillemets volée, des lois anti-LGBT qui passaient, un blocage du processus d'adhésion de l'Union européenne, il y a eu des scènes horribles en fait de répression dans les rues et en gros les clubs et ces espaces-là et les personnes qui les habitent ont joué un rôle central pour rediriger en fait et gonfler les manifestations dans la rue. Et en fait on se posait aussi la question est-ce que en France les clubs ont ce rôle-là quand il se passe des choses comme ça. Et en fait c'est un peu essayer de comparer en fait et de se dire ok, quelle est aussi l'histoire politique d'autres endroits, comment ça se passe ailleurs, comment on peut s'en inspirer. Enfin c'est vraiment ça aussi qu'on essaye de faire dans la revue et d'avoir différents points de vue en tout cas.
Et alors, dans un premier temps, vous avez souhaité explorer l'histoire noire des musiques électroniques. On en a déjà parlé dans l'émission, mais je pense que c'est important qu'on continue d'en parler. Quand on a une certaine affinité avec la culture clubbing, la techno, la musique électronique, etc., c'est bien de s'intéresser aux histoires de ces cultures-là, histoires qui s'enracinent et qui s'imprègnent dans les luttes afro-américaines et queer. Pourtant, aujourd'hui, ces cultures, elles sont dominées par les blancs, les blanches, qu'il s'agisse des artistes, des labels, mais aussi des clubbeurs et des clubbeuses. Pourquoi c'était important pour vous de remettre en avant ces héritages et cette histoire? Pourquoi c'était important en tant que, enfin, pourquoi c'est important en tant que fêtard, fêtarde, de s'y intéresser?
Forcément, nous, on est dans une démarche de créer du sens aussi autour des pratiques festives. Et pour cela, ça nous semble crucial de s'intéresser à l'histoire des espaces qu'on occupe. Et ça, c'est une démarche qu'on prône. Enfin, encore une fois, pour revenir moi à la programmation, que je prône dans n'importe quelle programmation, dans n'importe quel espace culturel, il faut mettre du contexte, il faut mettre de la médiation. Et on se rend compte que... très rapidement, nos espaces, nos cultures peuvent être facilement appropriés et facilement récupérés pour faire de l'argent, tout simplement. Et en fait, aujourd'hui, dans la culture club, il y a énormément d'endroits qui ont, je pense, oublié ou qui n'ont pas connaissance. Et énormément de gens qui ne savent pas concrètement comment sont nés les espaces de club, où est née la musique électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui, la techno, etc. Et l'histoire qui va avec. Et en fait, en connaissant cette histoire, donc l'histoire noire notamment des musiques électroniques et des premiers clubs aux États-Unis, on découvre aussi une panoplie de valeurs et de principes qui allaient de pair avec la création de ces espaces, qu'on a pu perdre aujourd'hui dans énormément de lieux festifs. Donc pour nous, ça nous paraissait évident de devoir revenir à cette histoire. On s'est quand même posé la question parce qu'on ne voulait pas faire ça de manière automatique ou facile, juste pour reposer ça ici. Et donc on a pensé à deux personnes qui sont journalistes, qui travaillent au quotidien dans les musiques électroniques, sur les musiques électroniques en France, à Paris, et qui ont à cœur cette histoire des musiques électroniques, l'histoire noire notamment, et par leur histoire personnelle, par leur goût, etc. Et donc en fait, c'est le premier article, on les interview, Marie-Maxime Drico et Lorraine Beneteau, respectivement de Red Bulletin et Club Theory. Et en fait, on leur parle du coup assez personnellement de leur rapport aux musiques électroniques, la découverte qu'elles ont eue de l'histoire noire de ces musiques et comment ça a fait écho, elles, ensuite, dans leur parcours de journaliste. Comment elles ont pu aussi construire un propos différent sur cette culture-là, du fait de connaître l'histoire noire des musiques électroniques. Et voilà. c'est à peu près ça. Donc, et puis, donc, c'est un peu un fil aussi qu'on tire dans tout le numéro, c'est de essayer toujours, quand on est un peu perdu face à un sujet, de se reconnecter aux racines du sujet. Donc là, en l'occurrence, ces espaces-là, quoi, les clubs, leur rôle aussi. Et donc, pour finir, le rôle aussi de soins que les clubs et que les espaces festifs ont eu au départ pour certaines communautés minorisées. Et donc aussi parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui se réactive, se réanime. Il y a de plus en plus de collectifs ou de personnes qui réclament en fait que des espaces en mixité choisie existent, que des espaces où certaines communautés sont protégées, en tout cas. Qui soit autogéré, existe, etc. Donc c'est un mécanisme qu'on a vu dans le passé, qu'on revoit surgir aujourd'hui. On se disait, c'est intéressant de faire le lien.
Et alors Laure, justement, dans un autre article, tu enquêtes sur l'héritage et sur l'impact du mouvement des free parties en France. Ça résonne vraiment avec l'actualité, étant donné qu'une nouvelle proposition de loi anti-rave vient d'être déposée à l'Assemblée nationale. Proposition de loi qui renforce la répression des rave parties illégales avec des sanctions plus dissuasives, entre guillemets, pour éviter, entre autres, les innombrables viols, blessés et morts, je mets toujours des guillemets, qui seraient à déplorer lors de ces événements. Comment ce mouvement des free parties, il a contribué à la création d'imaginaire des contre-cultures et en quoi la répression qu'il a subi et qu'il subit toujours aujourd'hui transforme ses modes d'organisation et son rapport à l'espace.
Pour poursuivre sur ce qu'on se disait juste avant, en fait, je pense que mieux connaître l'histoire du mouvement rave en France, en Europe, ça permet de se rappeler de la criminalisation et du rapport très répressif qu'il y a eu par les autorités françaises, et donc de pouvoir se projeter dans un futur potentiel où si la répression reprend en fait autour de ces fêtes libres, qu'est-ce qu'on fera, comment on continuera à faire la fête dans un monde où potentiellement on n'aura plus le droit de le faire de la même manière. Donc c'était aussi, il n'y avait pas encore cette proposition de loi à ce moment-là, mais l'idée c'était de se dire revenons en arrière un petit peu, voir ce qui a construit nos espaces festifs tels qu'on les connaît aujourd'hui aussi, cet imaginaire de la rave, cette utopie de l'anarchie autour de la fête, etc. pour déjà propager et rappeler les valeurs et l'utopie qui existaient dans la rave party, et aussi rappeler la criminalisation, encore une fois, dont a pu être victime ce mouvement. Et qu'est-ce que ça nous apprend ? En fait, on a rencontré plusieurs générations de raveuses, de personnes qui ont joué, qui ont organisé, qui ont participé à des raves, ou qui en organise aujourd'hui, parce qu'on voulait mettre en lien en fait les différentes générations. Et on veut pas non plus exempter le mouvement rave de tout ce qui a pu être critiqué après, sexiste, des espaces énormément dominés par les hommes et par la blanchité aussi, qui étaient hétéronormés, qui étaient pas facile, je pense, à naviguer selon les témoignages qu'on a eus pour des personnes minorisées. Mais on veut aller, en fait, nous, avec Au-delà du Club, on aime beaucoup travailler sur les imaginaires. Donc, notre idée, c'est de se dire que si on construit des imaginaires optimistes, comme je disais au début, ou en tout cas inspirants, ça va pouvoir créer de la réalité, peut-être. En tout cas, des idées dans la tête des gens, quoi. Et donc là, c'était l'idée de se dire, au-delà de cette réalité des raves qui avait aussi des défauts, effectivement, évidemment, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette période en termes d'utopie et en termes aussi d'espace hors de la société capitaliste, hors de la société hétéropatriarcale, où les genres se confondaient, où les normes étaient différentes, où le rapport à l'argent était, essayait d'être distancié. Et en fait, en discutant notamment avec Fanny Corral, elle nous indiquait que vraiment il y avait aussi la musique électronique arrivée pour casser un peu la temporalité normale. Donc on savait plus trop quelle heure il était. Les rapports de genre étaient aussi travaillés parce que on pouvait arriver en grosse boots et avec des pulls à capuche et personne n'allait forcément tout de suite être dans un rapport de séduction, au contraire de ce qui existait dans les clubs à l'époque. Dans les clubs de l'époque, il y avait l'idée de prendre des bouteilles et en fait les espaces VIP étaient sur un piédestal par exemple, pour ceux qui avaient celles qui avaient pris des bouteilles d'alcool et qui avaient plus d'argent, donc un rapport de classe assez violent, et que dans les rêves c'était complètement différent. Donc il y avait cette idée qu'on pouvait créer vraiment des bulles un peu hors du temps, qui duraient, on sait plus trop combien de temps, combien de jours, combien de nuits, où on allait rencontrer les gens différemment aussi parce qu'on savait pas de quel milieu social, de quelle classe ils arrivaient et elles arrivaient. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attirée, et je me suis dit Est-ce qu'on n'essaierait pas de reproposer, en fait, en tout cas, ça, de ressouligner l'importance que ça avait aujourd'hui et on questionne, pour finir dans cet article aussi, l'actualisation de ce mouvement rave, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut exister aujourd'hui sur la scène, notamment francilienne, qui s'inspire de cette époque et qu'est-ce que cette époque a à nous apprendre, en fait.
Et justement, tu parlais d'utopie. Donc, pour ce numéro, vous vous êtes intéressé aux utopies festives et militantes qui ont marqué le 21e siècle. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces utopies-là ?
Justement, il y a eu vraiment le mouvement rave avec les Spiral Tribe, etc., et la philosophie qui allait avec. Et ensuite, on a surtout exploré ça, en fait, pour les utopies, en allant chercher des textes qui gravitaient autour de ça, de la fête libre. Et il y a un des textes qu'on a lu qui était super intéressant, qui parle d'un terrain vague au Canada, terrain vague de Hochelaga, je crois que ça se dit. Donc c'est un travail de recherche qui a été mené par Charlie, je crois que ça se dit comme ça, Bretomé, et qui parle en fait pendant la période Covid de l'occupation du territoire dans une période très compliquée pour le mouvement, et comment en fait créer des espaces où on pouvait occuper le territoire différemment, se réapproprier l'espace. Elle fait des liens avec la nature aussi, et donc l'utopie d'un rapport différent avec l'écosystème naturel qui pourrait nous donner des leçons en fait sur la manière de vivre mieux, de vivre de se sentir chez soi, de créer des rapports sociaux différents. Voilà, donc on a un peu étudié l'utopie sur ce travail là
Et pour la référence exacte, pour celles qui nous écoutent, c'est « Fêter un autre monde, l'expérience d'une rave au terrain vague d'Hochelaga ». Et du coup, tu l'as bien dit, par Charlie Bretonnet. Donc ça, c'est tu le références dans l'article que tu as écrit, qui se trouve dans le Flashies.
Et alors, au sein du fanzine, vous avez aussi créé un espace qui s'appelle « Refuge ». Pour rendre le fanzine encore plus accessible, vous effectuez un travail de définition des termes, souvent plus militant, plus conceptuel, théorique. Pour ne pas exclure justement certaines personnes, vous souhaitez que le vocabulaire y soit compris par tous et par toutes. Vous dites que ces définitions, elles ne sont pas parfaites, elles sont forcément biaisées, mais elles expriment la vision du monde militant que nous habitons. Comment est venue l'idée de créer cet espace-là ? Comment vous l'avez mis en place ? Et comment vous choisissez les termes à définir ? Comment vous rédigez les définitions ?
C'est un glossaire, mais qu'on ne voulait pas appeler glossaire parce que c'était un peu ennuyant. C'est venu un peu au fil de discussion. On s'est dit en fait, ouais, c'est un peu un. Bah, c'est ça, c'était cette idée d'espace refuge et aussi de pas. Dans cette volonté de ne pas exclure en effet les personnes qui pourraient lire les articles qu'on propose et qui ne comprennent pas en fait le jargon qu'on utilise. Je sais pas, si je lisais une revue hyper scientifique et qu'il y avait plein de mots en lien avec les maths et les sciences et qui sont pas mes domaines de prédilection, ça me repousserait un peu à la lecture. Donc on s'est mis à la place des lectrices et on s'est dit tous ces termes que nous on utilise un peu hyper facilement, peut-être qu'il y a besoin de les définir et il y a besoin de rendre nos revues accessibles aussi par ces définitions là du coup c'est à l'écriture et à la relecture en fait qu'on choisit les termes. À chaque fois, la liste s'allonge. En fait, il y a eu un moment où on s'est dit des fois, il y a un moment où on n'aura plus rien à définir. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque numéro, il y a encore, il y a tout le temps, forcément du lexique spécifique à la thématique qu'on aborde. Et du coup, on a décidé que ce refuge-là, ça serait un peu comme un feuillet à part. Donc en fait, c'est un feuillet qui se plie et qui vient fermer la revue et sur lequel donc on peut trouver nos définitions. Et en fait, nos définitions, c'est un peu c'est ce qu'on trouve dans les livres, dans nos recherches, ce qu'on pense que ce mot représente ou est. On essaye de replacer toujours notre prisme et nos postures, nos positionnements. C'est un peu une cartographie des mots qu'on utilise. Et je pense qu'elles seront jamais parfaites. C'est vraiment des tentatives de définition.
Ouais, on les appelle définitions subjectives pour se repérer quand les concepts nous perdent. Parce qu'on a eu un problème de légitimité. Au début, on s'est dit, mais qui on est pour définir des mots
aussi importants.
Aussi ouais. importants, et surtout des mots militants, donc on a un gros bagage. Mmh. Et après, on s'est remotivé, on s'est beaucoup dit, en fait, c'est nos définitions. On va les définir avec le sens que ça a pour nous, en l'assumant, en disant c'est subjectif, mais en fait, toutes les définitions sont subjectives. Mmh. Donc pourquoi on ne pourrait pas aussi partager à notre lectorat la manière dont nous on souhaite utiliser les mots, parce que de toute façon c'est nous qui les portons. Donc voilà, et on se disait toujours, moi je me disais toujours, il faut que mes parents puissent lire les revues. Et je sais pas si la liste je leur offre à chaque fois, mais en tout cas je me dis que c'est vraiment pour pas être excluant. Et, ouais. et le sujet de l'entre-soi militant, c'est un sujet qu'on a beaucoup discuté pendant cette revue, l'écriture de la revue, parce que c'est aussi une des limites qu'on a vues en juin dernier, pendant les élections, etc., à tout le travail qu'on avait fourni, nous et d'autres, bien sûr, associations et collectifs qu'on connaît bien. Et on s'est dit, tout ce travail qui est fait, qui est précieux autour de nous et qui, j'espère, fait bouger quelques lignes. Mais en fait, vu le résultat des élections, on parle à très peu de personnes. Et en fait, comment faire pour s'adresser à plus de monde ? Donc, il y a nous, au niveau de au-delà du club et de Flashies, ces questions-là, mais aussi au niveau du monde de la nuit et de la fête. C'est-à-dire, comme l'a dit Sarah au départ, en fait, nous, on a la chance d'accéder à certains lieux, certains espaces qui sont vraiment précieux pour vivre la fête différemment. Et vraiment comme un espace de liberté, de soins, etc. Mais est-ce que ça s'est donné à tout le monde, à tous et à toutes ? Et comment faire pour que ce soit plus simple pour certaines personnes d'accéder à ces espaces, ou pour certaines valeurs, un peu simples, peut-être pas toutes, de se diffuser en fait, dans des espaces différents, plus commerciaux, dans des lieux qui sont moins militants de base.
Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous répondez, question pas trop piège, mais à celles et ceux qui estiment que les espaces festifs devraient rester apolitiques et être uniquement des lieux de divertissement.
Moi je réponds pourquoi pas si ces personnes en ressentent le besoin, c'est-à-dire que dans cette volonté aussi de ne pas être excluante et de pas avoir un certain mépris envers d'autres façons de faire la fête et de pratiquer, moi, je peux comprendre que y ait la majorité des personnes qui vivent en fait dans un système capitaliste aliénant, où en fait toute la semaine c'est 40 heures au travail, et qu'en fait la seule bouffée d'air, ou en tout cas le seul espace de fun et de lâcher prise, ça soit le samedi soir. En fait, je sais pas s'il y a un terme qui s'appelle la fête revanche ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça. En tout cas, prendre revanche sur sa semaine horrible.
Ouais. Ah, oui.
Et en effet, je trouve ça triste que le système de travail, et en tout cas les façons dont on opère au quotidien, nous fasse ressentir ça, mais je peux le comprendre. Donc en fait, ça peut être aussi tout à fait ok que ces espaces-là n'aient pas de... Enfin, que ça soit juste un espace de lâcher prise, tout simplement. Mais en fait, très souvent, ce qu'on voit, c'est que quand il n'y a pas de conscientisation des questions qu'on soulève, ou en tout cas quand c'est un espace pur de divertissement et de lâcher prise, et qu'on ne capte pas en fait les rapports qui s'installent en fait entre les personnes qui occupent le même espace, très souvent ça donne lieu des reproductions des systèmes de violence et de discrimination, et c'est toujours les personnes minorisées qui en pâtissent en fait. Donc ces espaces peuvent exister, mais pas trop. Non, ils peuvent exister, mais en fait il faut pas que ça soit non plus, je sais pas, forcément on a tous besoin de nos espaces en fonction de qui on est, mais je pense que c'est toute la question aussi, c'est-à-dire que nous, tout le travail qu'on fait, on peut observer que ça avance dans les espaces festifs qui les incarnent, ou en tout cas qui prennent tous ces enjeux en compte, et qui se forment, qui mettent des awareness teams, qui font des maraudes en fait pour voir si tout va bien. Ça, on trouve, il y a quand même eu une avancée, un travail de terrain par les associations qui a complètement changé, mais c'est pas le cas partout. Et en fait, on se dit très bien, on va rester entre nous, mais comment on fait pour élargir ce travail aux plupart des clubs et des espaces, et est-ce que c'est possible en fait aussi, parce que ça c'est une question qui reste en suspens et qu'on se pose beaucoup aussi, mais voilà.
Et alors vous organisez le 3 et le 4 avril un événement spécial pour la sortie du numéro dans l'espace culturel E-Side à Paris. Vous pouvez nous en dire un peu plus, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on pourra retrouver là-bas?
Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est notre lancement annuel. À chaque fois qu'on sort un numéro, on aime bien fêter ça autour d'un moment ensemble et aussi rencontrer les personnes qui nous lisent. Et parce que c'est aussi un endroit où ils peuvent récupérer leur numéro ou l'acheter. Et aussi pour pousser la direction artistique du numéro dans un espace physique. Parce que du coup, enfin, on en a très peu parlé, mais chaque numéro est possible grâce au travail d'un duo de graphistes. Qui a du coup carte blanche sur l'interprétation du fond et de ce que nous on apporte en termes de contenu, et tout ça avec les contraintes de la risographie, du fait que, enfin, du format, de comment on imprime, etc. Et du coup, c'est l'occasion pour nous de vraiment pousser l'univers qui a été proposé dans le numéro dans un espace où on peut rencontrer les gens. Donc là, c'est le 3 et 4 avril. C'est la première fois qu'on fait sur deux jours aussi, parce que à chaque fois on trouve ça un peu trop court. Du coup, on s'est dit on va rester deux jours. Et du coup, le 3 avril, on commence par une open conversation, donc qui est sur inscription. C'est limité à une trentaine de personnes, parce qu'on a voulu offrir un espace à la fois pour nous et pour les personnes intéressées qui sont inscrites, d'échange sur les pratiques militantes dans les musiques électroniques et sur nos façons de nous engager. En fait, on a pu s'apercevoir que très souvent, quand on milite et quand on s'investit dans des projets, on le fait un peu dans l'urgence, et puis on a très peu d'espace pour réfléchir, enfin d'avoir cet esprit réflexif, ou en tout cas d'analyse de nos processus ou de nos façons d'agir. Et très souvent aussi, il y a plein de militants, militantes qui luttent pour la même cause, mais luttent un peu à côté sans trop dialoguer. Donc on s'est dit, pourquoi pas, ça pourrait intéresser des personnes qui gravitent dans nos cercles ou pas, ou juste des curieux, curieuses, des publics qui sont intéressés par cette thématique-là et sur lesquels on pourrait échanger autour de comment s'engager en fait dans nos scènes. Et dans une plus large mesure, s'engager politiquement. Donc on commence avec ça à 18h. Et ensuite, à 19h30, l'espace ouvre au public pour un vernissage. Il y aura de la musique. Ce sera plus un moment informel et festif autour de la revue. Et le lendemain, on ouvre la journée, on ouvre au public. On organise un workshop collage à 16h30, qui est aussi sur inscription. Il faut savoir que je crois qu'on a commencé avec le premier numéro avec un atelier collage entre nous, parce qu'on s'est dit en fait c'est aussi trop bien de pouvoir détourner des images, des mots et des façons de composer en fait un imaginaire. Enfin, c'est aussi travailler sur les imaginaires au final, le collage. Donc on avait envie de proposer ça et voir comment on pouvait décliner la thématique de la revue en collage.
Et c'est vrai qu'on est un peu fan des ateliers en tout genre, que ce soit des ateliers d'écriture, c'est vrai, on a mené beaucoup, avec la poésie ou avec avec la prose, des ateliers, des workshops on a fait un l'an dernier à Nuit Sonore aussi sur les utopies festives et la fête dans 150 ans. Ouais. Donc pour sortir complètement d'un univers connu et aller dans la science-fiction, l'afrofuturisme et tout, et des ateliers collage. Et en fait, on se dit que au-delà du texte qui peut être aussi parfois difficile d'accès et qui peut être aussi un grand pas de se dire je vais écrire un article ou etc. C'est bien que les personnes puissent aussi s'exprimer à travers différents médias et pour partager toujours leur intériorité, leur vision, leur sensibilité et tout. Donc on essaie de faire un peu plein d'ateliers pour accueillir le plus de gens et pour pas imposer une vision très analytique, mais parfois proposer des visions plus faciles d'accès aussi et ou plus douces aux lecteurs et aux lectrices.
Et justement,
finit juste après.
Pardon, j'ai fait une petite incartade. Et effectivement, on finit à 19h30. Non, 19h, pardon. Par une écoute-discussion. Donc, c'est aussi un format un peu hybride, en fait, de se dire on va parler de musique, écouter des disques avec deux personnes qui ont sélectionné pour l'occasion une série de morceaux et d'albums qui ont marqué leur engagement politique, soit par l'esthétique de l'album, la démarche de l'artiste, ou aussi parce que c'était un moment de leur vie où, je sais pas, tel morceau a trop changé, a accompagné leur manif ou je ne sais quoi. Et donc, on s'est dit, c'est trop cool d'être aussi, comme on est quand même toutes aussi dans le milieu musical, de demander à ces personnes-là, donc qui font partie du numéro, Fatal Furilax et Marie-Maxime Dricot, de venir avec ces morceaux et qu'on discute ensemble de musique. Et du coup, on va parler de militantisme, on va parler d'implication politique, mais on va s'attarder sur aussi comment la musique, encore une fois, un endroit et d'émotion, de sensibilité, peut en fait contribuer à impulser un engagement politique, à faire comprendre des sujets qui sont historiques, qui sont militants, et faire aussi donner envie de s'engager, d'une autre manière que, d'une manière plus ouverte et plus sensorielle, quoi.
Et alors, très très rapidement, est-ce que justement, vis-à-vis de la conversation autour de l'engagement militant qui va avoir lieu le 3 avril, est-ce que vous auriez des conseils à donner à celles et ceux qui souhaitent avoir des clés pour s'engager, s'organiser, militer, sans aussi s'épuiser justement ?
Moi, je suis pas très conseil. Non, mais j'ai du mal à en donner, et surtout, et la démarche de la conversation, en la préparant, on s'est aussi dit que c'est toujours dur. Enfin, nous, on est toujours. Enfin, c'est compliqué d'être en posture de conseil. C'est plus pour nous, un truc d'apprentissage dans la conversation et d'échange en fait avec d'autres militantes ou même, de façon assez horizontale. Franchement, je saurais pas en
il
donner.
Faut venir.
Et même, enfin,
le 3 et le 4 avril.
Les conversations comme ça peuvent planter des graines et c'est trop bien. Mais c'est surtout, c'est ça. Enfin, c'est aussi ce qu'on pousse à faire avec la revue, c'est être curieux, curieuse de l'histoire des milieux dans lesquels on évolue. Donc là, on parle des musiques électroniques, mais ça peut être des milieux divers, quoi. Mais je pourrais pas en donner plus. Ouais, en tout cas, pas une liste, quoi.
Plus pour le partage d'expérience. Ouais. Et après, parce qu'on sait en fait que faire des choses, déjà, ça va inciter d'autres à faire. On sait l'importance des modèles. Nous, on a eu des modèles. Il y a des personnes où on s'est dit, ouais, c'est trop bon, trop beau ce qu'elles font. C'est incroyable et tout. Puis après, il y a toujours ce petit truc de se dire, vas-y, on essaye. Et je pense que c'est ça qui, pour moi, c'est pas conseil, du coup, c'est partage d'expérience. C'est le fait que être accompagné, s'entourer de personnes, et de pas se dire seul face à le soir dans son lit, qu'est-ce que je pourrais faire. Mais s'il y a une personne, une rencontre, des personnes avec qui le moteur est plus facile à activer parce qu'on est plusieurs, l'action va être beaucoup plus facile. Et je sais que nous, dans Au-delà du club, on s'entraîne beaucoup, l'une en entraînant l'autre. et ça nous permet d'avancer comme ça, d'être au quatrième numéro aujourd'hui, grâce à la communauté. Et dans Réinventer la nuit, qui est un autre collectif qu'Au-delà du club a rejoint l'année dernière. C'est aussi ça qu'on a trouvé, c'est d'autres personnes qui travaillent sur d'autres sujets, qui se posent des questions, qui nous permettent aussi de continuer à réfléchir et de continuer à agir ensemble, parce que seul, on se fatigue, en fait. C'est difficile des fois de tenir la barre.
Merci beaucoup Laure et Sarah d'être venues nous présenter Flashies et son nouveau numéro. Je vous invite tous et toutes à aller bien sûr checker le compte Instagram de Au-delà du club, mais aussi celui de Réinventer la nuit. N'hésitez pas à venir jeudi et ou vendredi à Aside, du coup à Paris. On va s'écouter un dernier son, Like That de Oh Boy. And it goes like this, and it goes like that, like this, like that, like this, like that. Et c'était Like That de Hot Boy. On va maintenant écouter, pour ces dernières minutes d'émission, Agathe qui vient nous parler du documentaire Sisters with Transistors.
L'histoire des femmes est faite de silence. Ces mots ouvrent le documentaire Sisters with Transistors. Ce sont ceux de l'artiste américaine Laurie Anderson. Les femmes se sont emparées des outils électroniques et ont été pionnières. On trouvait dans ces nouveaux objets une voie de liberté hors des grandes industries musicales, des voies de production capitaliste et patriarcale, une voie vers la musique qui sera silenciée, mutée. Les femmes, souvent pionnières et premières oubliées, c'est la marche de l'histoire. Dès les premiers instants de la musique électronique, elles ont été à l'avant-garde. En 1930, Clara Rockmore, violoniste prodige lituanienne, joue avec l'air grâce à son theremin. Et puis la guerre. Le son de la guerre, du blitz, qui fut pour Della Derbyshire la première expérience de la musique électronique. Les femmes travaillent et commencent à agir à l'égal des hommes. Dans les années 50, Della construit les sons dans son laboratoire à la BBC. Cette guerre eut un impact considérable sur les arts. De nouveaux styles apparaissent pour traduire la vie moderne. Les dramaturges surréalistes font appel aux compositrices comme Daphne Oram. Celle-ci a monté son propre studio indépendant. Génial, mais oublié. Voilà le sort de la majorité des femmes artistes. Pour Laurie, il s'agit de rompre à travers le silence, avec de beaux sons. Nous voilà à l'aune des mouvements féministes post-Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce monde que la musique électronique se développe, construite et pensée avec ses luttes. C'est aussi l'époque de la guerre froide. Entre le son des bombes et le cri de la liberté, pour ces créatrices de l'avant-garde musicale, ces transistors leur permettent de briser les carcans. Wendy Carlos, elle, retranscrit les musiques classiques avec des flux électroniques. Elle tord le son avec un certain cran et humour. Pauline Oliveros a créé des moyens de performer en live et exorcise la misogynie de la musique classique à travers deux oscillateurs et une platine et un retardateur de bande. Pour elle, c'est aussi un outil pour méditer sur sa condition. Elle crée des flux méditatifs, introspectifs et transcendantaux. On ne peut pas penser la musique électronique sans ses luttes. Grâce à la musique électronique, tout peut être fait par soi-même. Compositrice, interprète et juge de sa création. Suzanne Ciani ajoute le côté sensuel de son synthétiseur Bukla, le système le plus sophistiqué sur le marché en 1974. Il y a une pratique transcendantale de la musique, intime, sensorielle, émotionnelle. Marianne Amacher, quant à elle, s'intéresse à l'écoute, ce que procure ces tonalités vers des états de transe. Je pourrais encore continuer tant le documentaire est riche d'histoires sur ces héroïnes méconnues de la musique électronique, mais aussi sur leurs méthodes de travail et de création. Mais je ne pourrais retranscrire la beauté du montage, du travail de réalisation de Lisa Rovner, alliant les images d'archives et les sons et les voix de ces femmes, sublimées par une narration onirique. Je vous en dis pas plus, foncez le voir, il est disponible à la location sur le site Sisters with Transistors.
Merci beaucoup Agathe, c'est la fin de cette émission. Merci encore à la collective Au-delà du club pour cette magnifique discussion. Merci Agathe pour ta chronique et merci à Eléa à la Réal. Si vous avez entendu des sons de photos, c'est aussi parce qu'on a une photographe dans le studio. Merci à toi Lilou. N'hésitez pas à acheter Flashies, c'est dispo sur le site internet encore.
Sur notre bicartel, notre e-shop et aussi dans certains points de vente en librairie.
C'est dispo en librairie et c'est aussi dispo le 4 et le 5 avril.
Le 3 et le 4 avril.
L'émission, elle sera dispo en podcast sur Spotify et sur le site de Radio Campus Paris dès demain, normalement. N'hésitez pas à nous donner aussi de la force sur Insta, à nous proposer des sujets et à nous soutenir. On se retrouve le 29 avril pour le prochain épisode qui portera sur la santé mentale des artistes, DJ et des actrices du monde de la musique électronique. Merci beaucoup, à très bientôt.
Des Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Tuesday Sample. Tuesday Sample.
Un mardi sur 4 à 22h.
Sur Radio.